Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est un des événements culturels de la rentrée. L'Institut du monde arabe présente en ce moment et jusqu'au 31 janvier l'exposition Osiris, mystères engloutis d'Égypte, autour des découvertes effectuées à Alexandrie depuis une vingtaine d'années par l'Institut européen d'archéologie sous-marine. Franck Ferrand nous l'a fait visiter cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. J'ai eu la chance de la visiter en avant-première il y a quelques jours et je vous la recommande, cette exposition. Franck Godiot, le président de l'IEASM, par ailleurs commissaire de cette exposition de l'Institut du Monde Arabe, est notre invité exceptionnel. J'ai hâte de lui poser toutes les questions que suscite ce mythe et ces mystères d'Osiris, et puis bien sûr tous les grands vestiges qui s'y rattachent. Avant cela, je vous propose de nous replonger dans l'antique Alexandrie et de revivre l'histoire du fondateur de la dernière dynastie d'Égypte, Ptolémée Ier.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Mylène sur l'origine du nom du Louvre.
Eh bien, volontiers, mais je peux déjà dire à Mylène qu'on n'est pas tellement sûr de la question. Avant cela, partons donc à la découverte d'un des mythes fondateurs de notre civilisation.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
L'Égypte ancienne, enfin il était temps, nous dit Cyril via Facebook. Généralement, quand on parle de l'Égypte antique, c'est pour évoquer les grandes dynasties, la 18e, la 19e, la 20e, les Toutmosis et les Ramsès. Eh bien, l'univers que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir cet après-midi est celui d'une Égypte antique plus proche de nous, puisque nous sommes seulement en 323 avant Jésus-Christ. L'Égypte vient d'être libérée du joug perse, ça fait une dizaine d'années, et par qui ? Ben évidemment, celui qui a libéré les Égyptiens envahis par les Perses depuis déjà longtemps, celui qui va les libérer si l'on peut dire, celui qui en tout cas va chasser les Perses, c'est bien sûr Alexandre le Grand. En 335 avant notre ère, on est juste au tout début de son règne, on est un an après la mort de son père Philippe, Alexandre lance une expédition victorieuse vers l'Est, d'abord en Asie mineure, il est parti de Macédoine, vous le savez. Il s'attaque au roi de Perse Darius, Darius III, il libère un certain nombre de villes grecques d'Asie, comme la célèbre Éphèse. Et puis, Alexandre, sur sa foulée, si je puis dire, sur son air, va continuer. Il descend, il fait le tour du bassin méditerranéen, il contourne tout ça, il va conquérir l'Égypte. Il devient, ce qu'on a parfois tendance à oublier, pharaon d'Égypte. Il est couronné, comme l'avait été un certain nombre des pharaons de la dynastie, enfin des dynasties précédentes. À partir de ce moment, l'Égypte, et pour une courte période, va faire partie de l'Empire macédonien. Depuis le début de ses conquêtes, Alexandre peut compter sur la fidélité d'un certain nombre de généraux, dont on doit pouvoir dire que le plus fidèle se nomme Ptolémée. Alexandre va rester quelque temps en Égypte, assez longtemps pour fonder la cité d'Alexandrie, bien entendu, en 331. Alexandrie, au bout de quelques années, devient prospère. C'est une cité qui va naître et qui va se développer très vite, il faut le signaler, ce qui va expliquer peut-être aussi le caractère un peu anarchique de son développement. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Cité très prospère au milieu des années 20, en 323 déjà, on peut dire qu'elle a connu un développement rapide. La ville mélange des références égyptiennes évidentes, elle est le fruit même de cette civilisation, mais aussi, et c'est non moins évident, des références grecques, puisque ce sont les Macédoniens qui l'ont fondée. En juin de cette année 323, Alexandrie est littéralement balayée par une rumeur qui se confirme, qui devient une terrible nouvelle. Alexandre, le roi Alexandre, le pharaon, si l'on ose dire, vient de mourir. Il est mort à Babylone d'une fièvre, il est mort en Mésopotamie. Vous imaginez l'onde de choc sur l'ensemble de cet empire gigantesque et très récent. Les prétendants, évidemment, à partir de ce moment-là, sont nombreux. L'empire que laisse Alexandre est gigantesque, il est même, disons-le, ingouvernable, il n'y a pas de successeur désigné. Alors, il y a bien Philippe Aridée qui est l'héritier présomptif, c'est le demi-frère d'Alexandre, mais c'est un demi-frère bâtard qui présente un certain nombre de problèmes de santé. Quant à l'épouse du roi des rois, quant à Roxane, elle attend un enfant. S'il s'agit d'un garçon, un régent devra être désigné jusqu'à ce que l'enfant soit en âge de régner. l'un des proches du défunt Alexandre, le général Perdiccas, va proposer de réunir les 7 principaux lieutenants, comment puis-je dire, les 7 grands capitaines d'Alexandre. Et c'est là que Ptolémée propose de se partager cet empire gigantesque, puisqu'il est ingouvernable. Uni, pourquoi pas le répartir en différents royaumes, chacun prendra le sien. Perdiccas serait commandant en chef et tuteur du roi légitime. C'est ainsi qu'on essaie de faire passer la chose. En vérité, Ptolémée est un homme qui a la quarantaine, il est extrêmement malin, il feint de ne s'intéresser qu'à la province la plus lointaine, la plus difficile à gouverner, province qui a l'air peut-être aux yeux des Macédoniens que tous ses confrères, un peu moins importante. En vérité, ce dont il s'empare, c'est l'Égypte, bien entendu. Vous imaginez si l'Égypte présente peu d'attrait ? Ptolémée était né en 367, on compte à rebours, hein, là bien entendu, puisqu'on compte à partir de zéro, à partir de la naissance de Jésus. Il était né en 367, avant notre ère, en Macédoine, d'une union un petit peu contre nature, un petit peu une mésalliance, on devrait dire, entre sa mère Arsinoé, qui elle est membre de la famille royale, et un paysan propriétaire qui s'appelait Lagos. Retenez bien ce nom, il va donner son nom à la dynastie, les Lagides. Lagos aurait, et ça c'est ce que racontent les Égyptiens, elle aurait accepté d'épouser Arsinoé et de reconnaître l'enfant qu'elle portait après qu'elle l'eût reçu avec Philippe II, le père d'Alexandre, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agirait bien d'un enfant légitime qu'il s'agit de cacher. Sans doute est-ce là une légende destinée un peu, si j'ose dire, à redorer le blason du pharaon. Ce qui est certain, c'est que le fils d'un paysan grec né très très loin de là va fonder la dernière dynastie d'Égypte. Vous avouerez que ça n'est quand même pas banal. Il est vrai que Ptolémée est un compagnon de jeunesse d'Alexandre et qu'après tout, cela vaut bien un titre princier. Alors, il a été, je vous l'ai dit, l'un des lieutenants très fidèles d'Alexandre. Il va se révéler un guerrier incroyable, un conquérant. Il porte la chlamyde, le manteau pourpre que portent les officiers de l'armée d'Alexandre le Grand. Seuls les nobles de naissance ont droit à cet honneur, il faut bien le préciser. Il était grand, large d'épaule, comme ces gaillards des terres froides et rocailleuses de Macédoine, nous raconte Francis Fèvre, le biographe de Ptolémée, habitués à chevaucher hiver comme été, à battre la montagne à la poursuite des bandes de pillards des confins de l'Illyrie. Le visage de Ptolémée trahissait ses origines nordiques. Ses traits rudes, le nez droit et marqué, la force de la mâchoire témoignait de sa volonté, le regard, la noblesse du front forçait le respect, il inspirait la confiance et si rien dans cette physionomie de guerrier ne trahissait une personnalité extravertie, on sentait une vivacité retenue, une intelligence assoupie et développée par une éducation placée sous la houlette des philosophes grecs de la cour de Macédoine. Dès sa jeunesse, il avait été un cavalier d'élite appelé à figurer avec panache dans l'escadron mythique des rois de ce pays. Voilà le portrait aussi bien physique que quasiment moral de celui qui va devenir le fondateur d'une dynastie de pharaons d'Égypte. Vous avez bien compris que nous avons affaire à un cavalier, à un guerrier grec, qui plus est fils officiel d'un paysan des fins fonds de la Macédoine.
L'Égyptien par Hugues de Courson à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous cet après-midi. Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire de l'Égypte antique.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire de l'Égypte ancienne. Franck, vous nous emmenez à la découverte du roi Ptolémée Ier.
Vous imaginez ce que c'est pour un général d'Alexandre qui n'a connu en gros... Enfin, il a connu toute la conquête, hein, c'est un très grand guerrier. Enfin, la Macédoine, c'est 100 fois, c'est même 110 fois plus petit que l'Égypte de l'époque. Et encore, c'est une Égypte qui elle-même est un tout petit peu plus petite que ce qu'elle a pu être. Donc, c'est un gigantesque territoire d'une richesse, d'une culture absolument extraordinaire. Il faut arriver à... La tâche s'annonce ardue, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Égyptiens, pendant des années, ont été commandés par des rois d'essence divine, les fameux pharaons. Et quand je dis, vous imaginez depuis combien de centaines et de centaines de générations c'est le cas. Et voilà donc cet étranger, là, ce Ptolémée qui prétend gouverner. Alors il choisit comme capitale la fameuse ville d'Alexandrie dont je vous parlais tout à l'heure, qui donc a été fondée 8 ans plus tôt, qui est encore à l'époque en plein travaux. Un canal est aménagé, de nombreux édifices sont encore en cours de construction. La ville est traversée par 2 routes principales et perpendiculaires, la voie canopique et l'Argeos, qui elles-mêmes sont coupées par plusieurs rues qui vont devenir des rues très fréquentées, très agréables. Alexandrie est donc divisée tout naturellement en 4 quartiers dans lesquels habitent Grecs, Juifs, Macédoniens et l'entourage, on va dire, du roi et bien sûr Égyptiens. Assez vite, Ptolémée est parfaitement conscient de l'importance qu'il peut y avoir à développer les échanges, d'étendre le pays. J'ai presque envie de dire, il ne sait faire que ça de toute façon. Que demander à un conquérant sinon faire des conquêtes? Alors, il cherche à s'approprier la Cyrénaïque, qui se trouve, c'est la région à l'ouest de l'Égypte, hein, du côté de l'actuelle Libye. Il veut mettre la main sur Chypre également. Il lui faut des hommes pour mener à bien de telles expéditions. Alors, en échange d'espèces sonnantes, et Dieu sait que les coffres de l'Égypte en regorgent, il va réussir à enrôler des volontaires. La Cyrénaïque ainsi est rapidement conquise. Mais bien sûr, Ptolémée ne s'arrête pas là. Il lui faut du symbole. Il lui faut ressourcer, il lui faut enraciner son pouvoir dans ce qu'il y a de plus prestigieux dans son propre parcours. Et qu'est-ce qu'il y a de plus prestigieux qu'Alexandre lui-même à travers sa dépouille. Donc, l'une des obsessions de Ptolémée va être de faire rapatrier en Égypte le corps d'Alexandre. 10 années après son passage éclair dans la vallée du Nil, on va donc voir le conquérant, si je puis dire, revenir sur la terre des pharaons. Le char traverse la Syrie, la Palestine pour éviter les garnisons grecques avant d'atteindre les frondaisons du Delta. Les soldats prennent la direction de Memphis, mais Perdiccas, qui est le chef des généraux, on les appelle les diadoques, hein, toute cette bande de chefs de guerre, c'est le tuteur des 2 enfants royaux, Perdiccas, rappelez-vous. Il a, lui, l'intention de ramener le corps d'Alexandre en Macédoine. Alors, il va mettre le siège devant Alexandrie. Il décide de semer la terreur vers le sud en prenant le bras du Nil, en remontant le Nil. Et il finit par battre en retraite devant la crue du fleuve. C'est l'Égypte elle-même qui s'est défendue, si je puis dire. 2 de ses chefs vont finir par tuer Perdiccas. Un autre ancien général d'Alexandre, Antipater, devient à ce moment-là le régent de l'Empire. Ptolémée va épouser sa fille, Eurydice. Ça met un peu de sang bleu dans ses veines bien rouges, si je puis dire. Et à l'arrivée à Memphis, on peut imaginer la fête extraordinaire qui est organisée pour célébrer donc la mémoire d'Alexandre le Grand. Voilà ce que nous dit Violaine Van Eyck dans Les Ptolémées, dernier pharaon d'Égypte. Je la cite. Le char où avait été disposé le cercueil en or recouvert d'une étoffe rouge et aménagé un majestueux baldaquin, le char donc avançait lentement. Au fond du chariot trônait un siège en or magnifique rappelant que le corps d'un roi arrivait en Égypte. De chaque côté de la rue, les Égyptiens s'étonnaient de sa grandeur et de sa magnificence. Plusieurs attelages de mulets somptueusement ornés de colliers et de couvertures rutilantes de pierres semi-précieuses tirait ce char. Ainsi donc, on ramène Alexandre. Il veut aller à Memphis, finalement, le rapatrie à Alexandrie, dans la ville que lui-même avait fondée. Et voilà le début de ce qui, de ce qu'on va pouvoir appeler les guerres de succession, car bien entendu, Ptolémée ne va pas s'imposer aussi facilement. Il est même bientôt en danger. L'un des généraux d'Alexandre, il s'appelle Antigone le Borgne, va s'imposer dans toute la partie, dans tout ce qu'on appelle l'Asie mineure, si vous voulez, le sud de la Turquie, etc., tout le croissant, là. La Macédoine, lui, est bientôt ouverte. Tous les gouverneurs vont l'un après l'autre lui prêter allégeance. Antigone a désormais l'Égypte dans son viseur, parce que c'est vrai que la province est lointaine et qu'aux yeux des Macédoniens, elle a même l'air d'appartenir à un autre monde, mais elle est tellement puissante et elle est tellement riche. Antigone n'a pas oublié la mésaventure de Perdiccas qui, quelques années plus tôt, avait été retrouvée piégée par la crue du Nil. Et de son côté, Ptolémée espère bien en profiter de cette crue du Nil et des avantages naturels de son pays. Il fortifie sa vallée, son expédition à lui est préparée avec minutie, des milliers de mercenaires grecs renforcent au fil des mois la première cohorte de fidèles qui est héritée des armées d'Alexandre. Il y a là des Macédoniens, toutes sortes de Grecs, hein, tout ce monde-là sert dans les mêmes rangs. Les troupes d'Antigone sont repérées, mais Antigone laisse son fils Démétrius prendre le commandement à sa place. L'Égypte plaçait sur le terrain une armée somme toute conventionnelle, nous dit Francis Fèvre. Ses phalanges étaient encadrées par la cavalerie lourde, caparaçonnée, de petits groupes d'archers, de frondeurs, testaient en avant-garde les réactions de la masse ennemie face au Démétrios, où était allé Face à eux, pardon, Démétrios pouvait étaler la puissance de son armée. Toutes les cités ioniennes avaient fourni leur contingent et les saris, les longues lances de l'infanterie, s'appuyaient sur les auxiliaires armés de javelines, d'arcs, sans compter les éléphants, une arme de choc devenue habituelle dans les armées hellénistiques. Les armées d'Alexandre, effectivement, avaient rapporté d'Orient ces éléphants qui impressionnaient l'adversaire. La bataille va s'engager dans la plaine de Gaza. C'est une bataille très longue, une bataille qui va durer plusieurs heures, une bataille dont le vainqueur, allez, je vous le dis sans faire trop de teasing, s'appelle bien sûr Ptolémée.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Il passa sa vie à défendre et développer l'Égypte. Cet après-midi sur Europe 1, Franck, on retrace la vie du pharaon Ptolémée Ier.
Oui, à Gaza, à Nissa, Ptolémée a gagné une bataille, mais il est loin d'avoir gagné la guerre. Il va lancer dans la foulée une grande expédition vers Chypre, mais c'est là que sa résistance maritime s'effondre littéralement. C'est une véritable débâcle pour lui. On peut dire qu'à ce moment-là, son Égypte, celle qu'il vient de conquérir, est en difficulté, que tout semble concourir à une invasion prochaine, et d'autant plus que son grand adversaire, son ennemi Antigone, est en train de réunir la plus incroyable armée qui soit. 80 000 fantassins, 10 000 cavaliers, 80 éléphants doivent partir en direction du Sinaï, tandis que les navires, eux, sont déjà en train de pénétrer sur le Nil. Démétrios, qui est le fils d'Antigone, rappelez-vous, n'accompagne pas son père. Et pour cause, Antigone fait préparer parallèlement une flotte de plusieurs centaines de navires pour débarquer une deuxième armée plus au nord, le long des rivages du Delta. Vous voyez que Alexandrie et toute cette région du Delta est littéralement en état de siège. Alors, ça va être évidemment une confrontation terrible. Les Égyptiens et les Grecs, pendant ce temps, apprennent à se côtoyer, mais sans se mélanger, à vivre en paix, sans oublier chacun sa propre culture. Au fil des années, Alexandrie est devenue une grande cité, une sorte de cité idéale que le roi Ptolémée veut montrer en exemple au monde entier. Mais pour le moment, il lui faut encore affronter cette armée d'Antigone. Il faut dire que l'armée a été épuisée par 1000 kilomètres de marche à travers toute la Syrie. Elle manque de vivres, elle est sans ravitaillement. Antigone va finir par déclarer forfait, si je puis dire. Quant à son fils Démétrios, il n'a pas plus de chance puisque, à l'approche de l'automne, les 200 navires du fils d'Antigone se rendent à Chypre, à Rhodes, mais à ce moment-là, il y a un vent de plus en plus fort et les navires échouent. Ce qui veut dire que Ptolémée sort auréolé de ses victoires. À partir de là, il est non seulement le vainqueur, mais il est le sauveur, sauter. Il s'attribue le titre de pharaon. Cette fois, oui, il est pleinement pharaon et on le voit, vous savez, sur les pièces de monnaie, ceint d'une couronne, elle-même coiffée d'un aigle, animal royal. Dans les années qui suivent, on peut dire que Ptolémée sera seul maître de l'Égypte. Il sera sans rivaux. Alors, c'est l'époque où on voit se développer toute cette extraordinaire administration, un pouvoir très autoritaire mais très efficace qui va donner à cette ville d'Alexandrie le rayonnement incroyable que l'on connaît. On n'est pas très loin de la cité idéale qu'avait voulu Aristote, d'ailleurs. N'oubliez pas que tous les gens dont je vous parle, et notamment Démétrios de Phalère, qui est l'homme politique, le philosophe qui va conseiller Ptolémée, sont des élèves d'Aristote. Et ils vont essayer de mettre en place un aristotélisme pratique, si je puis dire. Voilà ce que l'on dit. Aristote défend l'idée d'une cité sur la mer. Voilà ce que l'on lit dans sa cité idéale. Il n'est pas douteux que pour assurer la sécurité du pays et l'abondance des produits de première nécessité, il ne soit préférable de ménager à la ville et à la contrée un accès à la mer. Voilà ce que disait Aristote, et voilà sans doute pourquoi non seulement Alexandre a fondé Alexandrie là où il l'a placée, mais pourquoi ses successeurs vont agrandir, fortifier, développer cette ville au rayonnement extraordinaire. Alors c'est la grande bibliothèque d'Alexandrie, vous savez, qui est encore très loin de l'incendie qui lui coûtera la vie, c'est la fondation du Mousseion, le fameux musée, ce palais des philosophes réservé à la vie studieuse des savants. Il faut imaginer tous ces grands savants, ces théologiens, ces naturalistes, ces médecins qui viennent investir les lieux. Je prends par exemple le cas, mais il y en aurait tellement d'autres, le cas de Hérophilos, qui va être le premier à décrire les méninges, les membranes de l'œil, à établir la relation entre les nerfs, le cerveau, la moelle épinière. Vous voyez qu'on est en train de faire des progrès extraordinaires. Et l'on peut dire que grâce à Ptolémée et grâce à tous ces savants et à tous ces philosophes qui l'entourent et qui veulent porter Alexandrie à une sorte d'incandescence mentale, j'hésite à employer le terme intellectuel, grâce à tous, Alexandrie va devenir littéralement le phare, et j'emploie le mot à dessein bien sûr, le phare de la pensée des siècles qui viennent. Je parle du phare parce que vous l'aurez compris, vous savez bien que c'est Ptolémée qui va décider de la construction de cette fameuse tour de pierre sur le port d'Alexandrie, une tour de pierre qu'on voyait à des dizaines et des dizaines de lieues à la ronde et qui, évidemment, a beaucoup fait pour la réputation de la cité, auprès des marins, mais pas seulement auprès des marins. Alors, je vous ai dit que Ptolémée avait épousé la fille d'Antipater, qui lui avait donné 3 enfants, dont un fils, seulement il n'est pas satisfait de cette union. Il va tomber amoureux de la suivante d'Eurydice, Bérénice. Le poète Théocrite la décrit comme une femme attirante. Le visage de Bérénice est agréable à regarder, nous dit-il. Elle donnera 4 enfants, dont 2 garçons, à notre Ptolémée. Et il y a un des garçons qui s'appelle Ptolémée, c'est lui qui sera le successeur. Cette fois, la dynastie ptolémaïque est en place et on l'appellera la dynastie des Lagides. Pourquoi Lagides? Mais je vous l'ai dit, parce qu'il s'appelait Lagos, le père officiel de notre grand conquérant, devenu pharaon grec d'une Égypte reconquise. Bonjour Franck Godiot.
Bonjour.
Un peu à la hussarde, j'ai raconté une partie du règne de Ptolémée Ier. Avec vous maintenant, nous allons mettre notre combinaison et plonger dans les profondeurs des mystères engloutis de cette Égypte.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et aujourd'hui, nous plongeons au cœur des mystères engloutis de l'Égypte antique grâce à votre invité, Franck Godiot, archéologue, fondateur et président de l'Institut européen d'archéologie sous-marine et commissaire de l'exposition Osiris, mystères engloutis d'Égypte à l'Institut du monde arabe, à voir jusqu'au 31 janvier. Et c'est un sujet qui fait beaucoup réagir nos auditeurs cet après-midi, Franck.
Oui, en effet, il y a beaucoup de messages, je vous en lis quelques-uns, notamment sur Facebook, mais aussi sur Twitter. Brigitte nous dit: j'ai eu le privilège de visiter cette magnifique exposition en avant-première. Quelle merveille! Comme lors de mes 2 voyages en Égypte, je me suis senti en osmose avec cette civilisation. J'ai dû être égyptienne dans une autre vie. J'ose à peine imaginer, nous dit Audrey, l'émotion que votre invité a dû ressentir lorsqu'il a rendu tous ses trésors à la lumière du jour. Et c'est Adrien qui nous dit: j'ai visité l'expo hier et effectivement, elle est non seulement très bien faite, mais également pleine d'enseignements sur une partie méconnue du panthéon égyptien et grec et du lien entre ces 2 civilisations, car c'est bien effectivement ce dont il s'agit, Franck Godiot.
Oui, effectivement. On a découvert sous les flots une ville qui s'appelait Tonis et Rakaion et qui était l'endroit où la civilisation grecque a rencontré l'immense civilisation égyptienne.
Ça, c'est quand même quelque chose. Elles se sont mutuellement fécondées, si l'on peut dire. Alors, nous sommes dans le nord de l'Égypte. Je dis ça pour ceux qui viendraient à nous rejoindre. On est dans la partie la plus récente de l'histoire antique de l'Égypte, sous les derniers pharaons, hein, les descendants de ce fameux Ptolémée. On est dans la partie du delta, tout à fait au nord. Or, depuis le 8e siècle, une partie tout importante de ce delta avait été engloutie. C'est ce qu'il faut expliquer. À la suite de quel événement ?
Il y a eu des cataclysmes énormes à l'ouest de la baie de Aboukir, enfin du delta du Nil, et ces cataclysmes ont fait disparaître sous les eaux de la Méditerranée 110 km de terre, et sur ces 110 km de terre, il y avait deux villes,
c'est deux villes très importantes,
Canope et Tony-Séraké.
Voilà. Alors, vous les avez l'une et l'autre découvertes et fouillées, c'est tout à fait incroyable. Est-ce qu'on connaissait leur existence de manière livresque avant d'en avoir la preuve archéologique ?
Oui, il y avait des textes antiques qui parlaient d'une ville de Canope. Beaucoup de textes qui parlaient d'Héraclion, Hérodote lui-même, au 5e siècle avant notre ère, a visité cette ville, et d'autres textes qui parlaient d'une ville étrange, un grand emporium, un grand port de l'Égypte qui s'appelait Tonis. Eh bien, en fait, on a pu prouver que Tonis et Héraclion
ne faisaient qu'une.
Tonis est nom égyptien, Héraclion nom grec, et on a aussi retrouvé Canope.
Alors, vous, Franck Gaudiot, ce qu'il faut dire, c'est que vous vous intéressiez à cette partie nord de l'Égypte et à cette période depuis déjà longtemps. Vous aviez fouillé le célèbre et grand port historique d'Alexandrie dès 92, en fait. Hein.
Oui, dès 92, on voulait retrouver ce fameux Portus Magnus, ce grand port d'Alexandrie, avec ses quartiers royaux, ses chantiers navals, et on a pu faire une carte de toutes ces grandes infrastructures qui sont maintenant englouties sous les eaux de la Méditerranée.
C'est ça qui est extraordinaire et c'est ce qui nous fascine tous, disons-le. Et lorsqu'on se promène dans l'exposition de l'Institut du Monde Arabe, évidemment, on est littéralement happé par cette atmosphère sous-marine, car la scénographie restitue les lumières, les ambiances, justement, sous-marines. C'est qu'en fait, ce sont, c'est un peu on pourrait presque parler du fantasme de n'importe quel archéologue, c'est de découvrir intactes des cités qui ont été englouties à la suite d'un cataclysme et qui sont, disons-le, protégées sinon par la mer, du moins par le limon qui les recouvrait.
Oui, tout à fait. Tous ces sites sont recouverts de mètres de limon très épais. Et donc, quand on plonge, on ne voit rien. Il faut faire des fouilles pour trouver ces vestiges.
De sable et de vases, hein, disons-le, en quelque sorte.
Vases qui sont consolidés en argile, parfois très compacts.
Alors, comment fait-on concrètement pour découvrir de tels vestiges ? Est-ce qu'on travaille au radar ? Est-ce qu'on travaille avec des sondes ? Comment est-ce que ça se passe concrètement ?
Oui, alors on a des instruments très sophistiqués qu'on utilise pendant des années systématiquement pour faire des recherches à l'ouest de la baie d'Aboukir. On a commencé en 1996. Oui. En 1999, on a découvert la ville de Canope. En 2001, la ville d'Héraclion qui s'est révélée être celle de Tonis aussi.
Ouais, alors, ça n'est pas la première exposition que vous faites à Paris. Vous êtes, si je puis dire, l'enfant chéri du public, parce qu'évidemment, ça nous fait tous rêver, hein, ce genre de découverte magnifique. Vous avez, à l'occasion des fouilles qui ont été menées, et qui sont d'ailleurs encore incomplètes, hein, tout ça est en cours, bien entendu, vous avez fait des découvertes magnifiques, vous avez ramené à la lumière des œuvres de toute beauté qui sont exposées justement en ce moment à l'Institut du Monde Arabe. Et si vous le voulez, tout à l'heure, Franck Gaudiot, nous reviendrons quasiment une à une sur quelques-unes de ces grandes œuvres magnifiques. Avant cela, je voudrais que l'on évoque la civilisation dont elles sont le fruit. J'ai parlé, moi, de Ptolémée Ier, de ce général d'Alexandre le Grand qui va faire partie de ceux qui se partagent l'empire d'Alexandre à sa mort, qui lui hérite de l'Égypte, qui va la défendre contre un certain nombre de ses confrères et qui va s'imposer en quelque sorte comme le dernier des fondateurs de dynasties pharaoniques.
Oui, Ptolémée est pharaon d'Égypte. La dynastie des Ptolémées va régner 3 siècles sur Égypte jusqu'à le dernier pharaon, je dirais, Cléopâtre VII, la grande Cléopâtre, qui sera vaincue par les Romains et l'Égypte deviendra colonie romaine.
Donc on est dans une Égypte plus récente qu'habituellement et dans une Égypte largement matinée de culture grecque, il faut le dire. Et d'ailleurs, dans les mystères qui vont nous intéresser dans un instant, il y a bien entendu l'héritage tout à fait égyptien des mystères d'Osiris, mais on voit se mêler à ces mystères des apports qui, eux, sont ceux du nord de la Méditerranée.
Oui, les Grecs, bien sûr, vont être influencés par toute cette mythologie gigantesque égyptienne et ils vont interpréter les dieux égyptiens, ils vont faire des équivalences. Le grand dieu Osiris va être pour les Grecs Dionysos, par exemple. Et donc, les Grecs, voyant ces cérémonies à Osiris, vont les interpréter comme des cérémonies dionysiaques.
Alors on possédait un certain nombre d'écrits, des stèles, qui nous permettaient déjà d'avoir une idée relativement précise des sites que vous n'avez découverts qu'en 1999 et 2001. On se faisait déjà une idée, hein ?
On a été très chanceux parce que effectivement, en 1881, Maspero, à terre, découvre une stèle qui
grand
s'appelle...
Savant, hein,
grand savant, ouais, découvre une stèle qui s'appelle la stèle du décret de Canope. Et dans cette stèle, on parle en fait d'une ville, Héraclion, et d'une autre ville, Canope. Et il est mentionné qu'entre ces deux villes a lieu tous les ans une très étrange procession du dieu Osiris qui sort d'un temple d'Héraclion qui s'appelle le temple de l'Amon des Guérèbes pour aller jusqu'à son sanctuaire de Canope où il allait être inhumé.
Et ça, c'est la description la plus historique qui soit des fameux mystères d'Osiris. Alors, sur quoi reposent-ils ces mystères ? C'est tout le sujet de l'exposition et ce sera tout le sujet de la deuxième partie de notre entretien.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Dessin animé Astérix et Cléopâtre avec cette fameuse chanson Le bain de Cléopâtre de Gérard Calvi. Cet après-midi, nous sommes au cœur de l'Égypte antique et on s'intéresse au mythe Osiris. Votre invité Franck Ferrand, c'est Franck Godiot, archéologue, fondateur et président de l'Institut européen d'archéologie sous-marine et commissaire de l'exposition Osiris, mystères engloutis d'Égypte à l'Institut du monde arabe à voir jusqu'au 31 janvier.
Et oui, car il y avait, vous savez, dans ce monde antique, bien entendu en Égypte, en Grèce aussi, il y avait ces fameux mystères qui étaient des cérémonies initiatiques extrêmement fermées, dont on ne sait d'ailleurs pas tous les secrets aujourd'hui encore. Les mystères dont nous parlons, ceux d'Osiris, sont sans doute à l'origine d'un certain nombre de savoirs occultes qui se sont perpétrés quasiment jusqu'à nos jours. Nous en dirons un mot tout à l'heure avec Franck Godiot. Et pour tout vous dire, Franck Godiot, si j'osais, je vous demanderais bien de nous raconter la belle histoire d'Osiris. Qui est-il, ce dieu Osiris ?
Eh bien, Osiris, c'était un dieu civilisateur qui avait apporté aux hommes l'agriculture, qui leur avait appris les lois, qui avait aussi enseigné comment honorer les dieux. Et ce dieu a un frère qui s'appelle Seth, et Seth est jaloux de lui. Et Seth va commettre le meurtre, il va tuer Osiris, et il va...
Fratricide terrible.
Fratricide, et il va le démembrer en 14 fragments. Mais Osiris a une femme, qui est d'ailleurs sa sœur, au grand pouvoir magique, Isis. Et Isis va retrouver les fragments, elle va les rassembler, elle va reconstituer le corps de son époux, elle va créer la première momie et grâce à ses pouvoirs magiques, va réanimer, faire revivre
ce corps. Réinsuffle la vie en fait.
Réinsuffle la vie, le temps de concevoir avec lui un fils, Horus. Et ce fils Horus va combattre Seth et les forces du mal, il va en être vainqueur et il va prendre l'Égypte en héritage. Et ce mythe d'Osiris est l'un des mythes fondateurs de l'Égypte antique et il était revécu, commémoré et perpétué tous les ans au cours d'une très grande cérémonie.
Alors quand vous dites qu'il était revécu, c'est-à-dire qu'on on reconstituait chaque étape en quelque sorte, chaque épisode ?
Eh bien tous les ans, dans tous les grands temples d'Égypte, Pharaon lui-même, bien sûr, ne pouvant pas être partout en même temps, déléguant ses pouvoirs à des prêtres initiés, rassemblait les fragments de son père, Osiris, car il était fils d'Osiris. Il en faisait des momies, il les faisait revivre et il commémorait ainsi ce mythe pour assurer la continuité dynastique, assurer l'ordre et la stabilité du cosmos et assurer aussi la fécondation de l'Égypte par la crue du Nil annuelle.
Vouloir comprendre les cérémonies en l'honneur d'Osiris demeure ambitieux, écrivez-vous. Mieux vaut peut-être essayer de les faire ressentir au public par l'entremise d'objets mis au jour dans les deux villes disparues aux portes de l'Égypte, donc votre canope et votre Héracléion, associés à des chefs-d'œuvre de l'art égyptien conservés dans les musées du Caire et d'Alexandrie. Ça, c'est le propos même de l'exposition. Alors, est-ce qu'on peut vous demander de nous présenter quelques-uns de ces objets fascinants ?
Bien, il y a des objets que nous avons découverts sous les eaux. Et parmi eux, une statue immense. C'est la statue du dieu Hapi, qui représente la crue du Nil. C'est lui qui apporte l'abondance. Or, pour les Égyptiens anciens, la crue du Nil était causée par les fluides qui s'échappaient du corps du dieu défunt, Osiris.
Et donc, la semence d'Osiris, d'une certaine manière.
Post-mortem. Ce sont ses humeurs.
Voilà, ses humeurs.
Et donc, Hapi, là, ce sont les humeurs du dieu Osiris qui viennent fertiliser les épées. Et là, c'est une statue qui fait 5,10 mètres de haut.
C'est incroyable.
En granit rose.
Ouais, magnifique. Tout ça est dans un état absolument somptueux. Parce qu'il y a donc les objets que vous avez extraits, vous, des eaux. On peut citer deux ou trois chefs-d'œuvre, hein, parce qu'il y a quand même des choses magnifiques, là. Hein.
Il y a bien sûr le saint du saint du temple d'Amon-Guéreb.
Incroyable.
Là où étaient célébrés les mystères dans cette région, avec un monument où il est écrit qu'il contient la statue du dieu qui donnait la continuité dynastique et qui était donc très important pour les Ptolémées, qui étaient étrangers, car ils venaient dans ce temple recevoir les titres de leur pouvoir divin de Zeus, Amon, Zeus, et de son fils, Rontsou en égyptien, mais le fils, c'était Héraclès pour les Grecs. Et il se disait descendant d'Héraclès. Donc, il recevait de leurs ancêtres leur titre de leur pouvoir divin sur Égypte.
Et il y a, bien entendu, à côté de ces objets que vous avez vous-même découverts dans les fonds marins, il y a des prêts du musée du Caire, notamment, des choses absolument sublimes. Hein, je pense à la statue cultuelle d'Osiris Onophris hein, sur son lit. Là, c'est absolument spectaculaire.
C'est un des monuments les plus précieux d'Égypte. Il est au musée du Caire. Et ce monument, pesant plusieurs tonnes, représente Osiris momifié, allongé sur son lit, gardé aux quatre coins par cardinaux, par Horus, son fils, sous forme de faucon, et on voit Isis représentée en milan femelle qui vient s'accoupler à lui pour donner naissance justement à cet Horus qui le garde déjà. Donc on voit ce cycle permanent de la mort et de la renaissance.
Alors évidemment, on voit aussi l'évolution progressive du mythe. Il y a un personnage, si je puis dire, un dieu tutélaire essentiel qui occupe toute la partie finale de l'exposition, c'est Sérapis. Il faut peut-être expliquer à nos auditeurs qui est Sérapis.
Eh bien, Sérapis est né d'un songe de Ptolémée Soter. Songe bien politique d'ailleurs. Dans son rêve, le premier des Ptolémées a vu un nouveau dieu, qui était un dieu syncrétique des dieux égyptiens et de dieux grecs, notamment du dieu Osiris et du dieu Hadès, dieu de...
Ça arrangeait bien tout le monde. C'était un moyen, une fois de plus, d'aller vers le syncrétisme et d'allier la culture millénaire de l'Égypte à la nouvelle culture très dynamique de la Grèce, en fait.
Bien sûr, et de se mettre, et de mettre de son côté, bien sûr, tout le clergé égyptien,
mais oui,
qui était très puissant en Égypte.
Il croyait lui-même à sa divinité, le premier des Ptolémées dont nous parlions tout à l'heure, ce Ptolémée Soter dont vous parlez.
Il a dû y croire parce qu'il a demandé à un grand, selon la légende, un très grand artiste de son temps, Bryaxis, de lui représenter ce dieu qu'il avait vu en songe, et il a fondé deux immenses temples à ce dieu, un à Alexandrie et un à Canope. Et donc c'est à Canope qu'il y avait le fameux Sérapéum Osirium, où le dieu, tous les ans, venait en procession se faire inhumer.
Ça devait être magnifique. On voit d'ailleurs toutes sortes d'objets qui participaient à la cérémonie commémorative. Hein, vous les exposez d'ailleurs, ces petits bateaux là, c'est tout à fait étonnant.
Oui, le dieu, l'avant-dernier jour de la célébration des mystères d'Osiris, sortait de son temple de la continuité dynastique d'Héraclion, pour aller sur une barque en procession sur 3,5 km jusqu'au sanctuaire de Canope. Et on a retrouvé une de ces barques offert au canal sacré, dont les eaux étaient bien sûr aussi les humeurs du dieu.
Alors on ne sait pas tout de ces mystères d'Osiris, bien entendu, ils conservent leur part de mystère. Est-ce qu'ils sont véritablement à la source d'un certain nombre de savoirs ésotériques? On a beaucoup parlé d'une sorte de filiation qu'il y aurait depuis ces mystères antiques jusqu'à certaines sociétés actuelles, je pense à la franc-maçonnerie bien entendu, en passant par les templiers, etc. Est-ce qu'il y a comme ça une sorte de généalogie du savoir occulte?
Le dieu Osiris est attesté depuis le tout début de l'histoire égyptienne. La célébration des mystères, très probablement, mais on en a la preuve que vers 1850 avant notre ère, de la célébration, mais il était certainement célébré
bien encore,
avant. Oui. Et c'est une célébration qui s'est perpétuée tout le long de l'histoire égyptienne. Et à l'époque ptolémaïque, il y a eu un syncrétisme entre les cultes à mystère grec et bien sûr les cultes initiatiques osiriaques. Et de là est née une philosophie appelée ésotérique d'Hermès Trismégiste, dont se recommanderont d'ailleurs certains savants de la Renaissance, tels que Pic de la Mirandole. Il y a eu vraiment une influence très importante.
Alors il y a deux aspects d'une exposition qui ne peuvent jamais passer à la radio, si je puis dire. D'abord, c'est l'atmosphère, le climat, la scénographie, qui sont particulièrement réussies. Vous avez fait un très beau travail là, à l'Institut du Monde Arabe.
Bien, on a deux scénographes très talentueux, Sylvain Roca et Nicolas Groux, et ils ont restitué une ambiance sous-marine à certains endroits, mais qui n'empiète pas sur la beauté des œuvres et qui reste quand même très contemporaine, mais très discrète par rapport à ces œuvres qui ont une force considérable.
Et puis j'ai eu l'occasion de le dire souvent, mais une exposition, ce n'est que la toute petite partie émergée d'un gigantesque iceberg de recherches, de travaux, d'approfondissements, et tout ça généralement fait l'objet d'un catalogue. Mais là, vous avez fait ça mieux encore, Franck Godiot, puisque c'est plus qu'un catalogue que vous nous proposez, c'est un ouvrage à part entière, conçu comme un livre, un très beau livre, qui s'appelle tout simplement « Osiris, mystère englouti d'Égypte », et qui est publié, co-édité par Flammarion et par l'IMA.
Oui, c'est une promenade dans ce mythe fondateur d'Osiris et aussi dans cette célébration très mystérieuse. Cette cérémonie des mystères d'Osiris était initiatique et était la cérémonie la plus secrète d'Égypte.
Et voilà. Et donc ce sont ces secrets, ce sont ces mystères qui plus est engloutis par les flots et qui ont été ramenés à la surface par vos équipes, Franck Godiot, que vous nous proposez dans cette très belle exposition qui se tient à l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 31 janvier 2016. J'imagine que vous allez repartir pour l'Égypte et qu'il y a encore du travail qui vous attend là-bas.
Eh bien, il reste presque tout à faire parce qu'on a fouillé guère plus de 5 ou 4% de ces sites. Et ils ont déjà, ces sites ont révélé des trésors inouïs, donc il nous attend beaucoup, beaucoup de choses.
Dans un contexte géopolitique difficile, évidemment, il faut le dire.
L'émission en Égypte se passe très bien, on n'a pas eu du tout d'interruption et nous sommes en mer, donc on est ailleurs quelque part.
Vous êtes ailleurs, dans le temps et dans l'espace. Merci beaucoup Franck Godiot d'avoir fait partager aux auditeurs d'Europe 1 votre passion, non seulement pour l'archéologie sous-marine, ça j'ai presque envie de dire nous la partagerions tous très facilement, mais aussi pour ces mystères engloutis d'une Égypte qui est toujours plus riche, plus subtil, plus, comment dirais-je, inattendu que ce qu'on pourrait croire. Merci beaucoup.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, nous avons une question de Mylène via le site internet europe1.fr. Je souhaiterais connaître l'origine du nom du Louvre. D'où vient le nom de ce merveilleux musée? En anglais, ce mot signifie... Un type de fenêtre est-il le même en français?
Eh bien voilà, c'est assez bien vu tout ça, mais pas tout à fait, non. C'est-à-dire que le mot anglais, il est dérivé du Louvre, alors que ce que nous allons essayer de trouver, c'est l'origine du mot lui-même. Alors, le monument, vous le connaissez par cœur, évidemment, hein, ce musée qui est le plus grand musée du monde, après avoir été le plus grand palais royal du monde, une chose tout à fait extraordinaire en plein cœur de Paris, qui s'est fait progressivement par l'accrétion des siècles. Au départ, on avait ce qu'on appelait la grosse tour du Louvre, où le roi avait, c'était un peu la Banque de France, si je puis dire, de l'époque, hein, c'était le trésor, la garde du trésor et la bibliothèque royale se trouvaient là. C'était tout à fait hors des limites de la première ville de Paris. Paris, bien entendu, on était très à l'ouest, et cette grosse tour du Louvre, elle était là pour bloquer le passage des envahisseurs de l'ouest, c'est-à-dire non seulement les Anglais, parce que dès qu'on dit l'ouest, nous on pense aux Anglais, mais avant il y avait eu les Vikings, et puis il y a les Normands aussi, les Normands qui avaient fait souche en Normandie après les invasions vikings. Bref, pour ce qui est du mot, eh bien ça peut venir de deux origines. Est-ce que ça vient des loups, tout simplement? Loupara, en latin, va donner la louverie, vous savez. Et on pourrait imaginer effectivement que le Louvre était bâti sur un terrain de chasse qui était peuplé d'une très importante meute de loups. Et pour tout vous dire, je ne passe jamais personnellement à côté du Louvre, parce qu'on m'avait raconté ça quand j'étais petit, donc ça a dû me marquer. Je passe jamais à côté du Louvre sans imaginer les loups dans un Paris qui à l'époque était encore une sorte de friche et de campagne, et les loups en train de circuler dans cette région. Sauf que, et ça c'est Henri Sauval, le premier grand historien de Paris au XVIIe siècle, on est au milieu du règne, on venait dans les années 1650 on va dire, c'est Henri Sauval qui nous dit qu'il faudrait plutôt chercher l'origine de ce mot dans des influences anglo-saxonnes justement. En vieux français, lower c'était la tour de guet, ça rappelle l'anglais tower du reste. Hein. Et le mot petit à petit aurait pris une prononciation plus française, il serait devenu lover, louvre, luvre, et puis ça aurait donné louvre. Et pour tout vous dire, un certain nombre de linguistes actuels remettent cette explication en cause et nous disent qu'il y a assez peu de chances que le Louvre vienne de là. Ce qui est certain, et j'aime bien m'appuyer pour finir sur quelques certitudes, c'est que depuis 1527, ce château du Louvre est devenu un grand palais moderne et que, depuis la Révolution, ce palais moderne est devenu un musée, bien sûr.